Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. John Maynard Keynes, un nom qui suscite autant d'admiration que de controverses. Certains le voient comme le sauveur de l'économie moderne, d'autres comme un promoteur de politiques économiques irresponsables. Mais qu'en est-il vraiment? Vous vous êtes peut-être déjà demandé quelles étaient les véritables idées derrière des termes comme « politique monétaire keynésienne » ou « relance budgétaire ». Était-il vraiment en faveur d'une intervention massive de l'État dans l'économie? Ou y avait-il des nuances que nous avons perdues en cours de route? Et qu'en est-il de ces idées sur la scène internationale? Keynes a-t-il vraiment jeté les bases d'un nouvel ordre monétaire après la Seconde Guerre mondiale? Dans cette vidéo, nous allons faire plus que simplement gratter la surface. Nous allons plonger profondément dans les textes originaux et les recommandations de Keynes, ce que d'aucuns appelaient avec ironie les ordonnances de Keynes. L'examen de ces fameuses ordonnances s'avère indispensable pour quiconque souhaite comprendre en profondeur la théorie générale, son ouvrage emblématique, ainsi que les politiques économiques qui en sont issues. Alors commençons. Keynes a acquis une grande notoriété pour ses idées sur les politiques monétaires internationales, notamment sa critique du retour à l'étalon or et son plan présenté à la conférence monétaire de Bretton Woods. Cependant, ces politiques externes étaient en fait secondaires pour Keynes. Elles étaient conçues pour créer un environnement international stable. Cet environnement stable était considéré comme une condition favorable, ou permissive, pour la mise en œuvre réussie de politiques internes visant à stimuler la demande effective au sein d'une économie nationale. La politique keynésienne est avant tout à usage intérieur. Pour relancer la demande effective, l'État dispose de deux instruments essentiels, le contrôle de l'émission monétaire et les finances publiques. Keynes ajoute même un troisième instrument, la persuasion, pour influencer l'opinion publique et modifier des comportements ancrés par plus d'un siècle d'orthodoxie classique. Pour Keynes, l'importance de ces politiques internes réside dans leur capacité à adresser les problèmes économiques fondamentaux tels que le chômage, l'inflation et la stagnation économique. Elles permettent également de réconcilier les objectifs de justice sociale avec ceux d'efficacité économique, comme le montre son plaidoyer pour une fiscalité correctrice des inégalités de revenus. Mais les politiques internes de Keynes ne se limitent pas à des concepts abstraits. Elles s'articulent autour de trois variables d'action bien précises : la consommation, l'intérêt et l'investissement. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer en détail chacune de ces variables et les moyens que l'État peut utiliser pour les influencer selon Keynes. Pour encourager la consommation ou dissuader d'épargner, ce qui revient au même en définitive, Keynes comptait beaucoup sur la persuasion pour influencer l'opinion publique. Il s'est montré un critique impitoyable de l'épargne autant qu'il a pu. Il a même appelé à l'euthanasie du rentier. Il prenait en exemple les penseurs mercantilistes des 16e et 17e siècles qui considéraient la consommation intérieure comme un moteur de la croissance économique, contrairement aux économistes classiques qui voyaient en l'épargne un moyen de financer l'investissement futur. Dans son ouvrage de 1931, Essai sur la persuasion, Keynes fait référence à la fable des abeilles de Mandeville pour illustrer l'idée qu'une épargne excessive est néfaste à l'économie et qu'une plus grande consommation est au contraire bénéfique. Dans la fable des abeilles, Bernard Mandeville, un philosophe et économiste du XVIIIe siècle, décrit une ruche prospère où les vices privés contribuent à la vertu publique. Dans cette fable, la ruche est en déclin lorsque les abeilles deviennent vertueuses et cessent de consommer de manière excessive. Mandeville suggérait que la consommation, même si elle pouvait être considérée comme un vice à l'échelle individuelle, pouvait avoir des effets bénéfiques sur l'économie en général. Dans une intervention radio-télévisée de 1931, Keynes s'est même adressé directement aux ménagères pour les encourager vivement à participer aux soldes. Il soulignait que les prix n'avaient jamais été aussi bas et que c'était le moment idéal pour faire des achats en grande quantité, notamment du linge de maison, des draps et des couvertures. Il expliquait que ces achats donneraient plus de travail aux Britanniques, stimuleraient la croissance, contribuant ainsi à la richesse du pays. Mais la persuasion n'était pas le seul outil pour relancer la consommation sur lequel Keynes comptait. Ayant constaté que les ménages à faible revenu avaient une propension marginale à consommer plus élevée, ce qui signifiait qu'ils étaient plus enclins à dépenser une livre supplémentaire reçue plutôt qu'à l'épargner, il encourageait le gouvernement à redistribuer la richesse des ménages à revenus élevés vers ceux à revenus plus faibles. Cette fiscalité correctrice des inégalités de revenus permettait, selon lui, d'augmenter la quantité d'argent dépensé dans l'économie, stimulant ainsi la demande globale. Selon Keynes, cette redistribution permettait également de concilier justice sociale et efficacité économique. Pour Keynes, la consommation était donc une variable d'action cruciale pour relancer la demande effective. Il a proposé plusieurs actions pour stimuler la consommation, allant de la critique moralisatrice de l'épargne à la fiscalité correctrice des revenus. Après avoir discuté de la consommation, passons à présent à un autre instrument essentiel dans la boîte à outils de Keynes, le taux d'intérêt. Pour Keynes, le taux d'intérêt est un outil central de la politique monétaire. L'objectif est d'abaisser le coût du crédit pour stimuler l'investissement des entreprises et, partant, la production et l'emploi. Dans une économie où le taux d'intérêt est élevé, seuls les projets d'investissement ayant une efficacité marginale du capital très élevée sont entrepris, car ils doivent surpasser ce taux d'intérêt élevé pour être considérés comme rentables. En abaissant le taux d'intérêt, on abaisse le seuil de rentabilité, ce qui rend plus de projets d'investissement attractifs en termes de rendement attendu. L'abaissement du taux d'intérêt a donc pour effet d'augmenter la quantité d'investissement rentable, stimulant ainsi l'investissement global, la production et, finalement, l'emploi. Keynes suggère que la Banque centrale pourrait intervenir directement sur le marché monétaire pour acheter et vendre des titres, ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'opération d'open market. Ces opérations ont un effet direct sur la quantité de monnaie en circulation et, par conséquent, sur le taux d'intérêt. L'offre accrue de monnaie via l'achat de titres entraîne une baisse du taux d'intérêt. Cependant, Keynes pensait que dans certaines circonstances, notamment en période de récession, la politique monétaire seule pouvait être insuffisante pour stimuler l'économie. Si le rendement attendu des investissements, ce qu'il appelait efficacité marginale du capital, était trop faible, la politique monétaire visant à faire baisser suffisamment le taux d'intérêt pouvait être en échec à cause de la trappe à liquidités. À partir d'un certain niveau, et malgré toutes les injections de liquidités de la Banque centrale, le taux d'intérêt ne baisse plus, et l'investissement n'est plus stimulé. Les agents économiques préfèrent simplement accumuler ces liquidités supplémentaires plutôt que de les dépenser ou de les investir. Pour dépasser cette contrainte, Keynes a proposé l'idée d'une monnaie fondante. Le principe était simple. La monnaie perdrait de sa valeur au fil du temps si elle n'était pas dépensée ou investie. Dans un système de monnaie fondante, la monnaie en circulation serait frappée d'une date d'expiration ou soumise à une taxe périodique. Cela signifie que, si vous déteniez cette monnaie sans la dépenser, elle perdrait de sa valeur, soit par dépréciation directe, soit par l'application d'une taxe. Pour Keynes, si la politique monétaire s'avérait inefficace, l'État devrait alors intervenir directement en augmentant les investissements publics pour compenser la faiblesse de l'investissement privé. C'est le troisième levier pour relancer la demande, l'investissement public. Keynes préconisait une intervention directe de l'État dans l'organisation de l'investissement, notamment par des grands travaux. Cette idée a été particulièrement mise en avant dans sa lettre ouverte au président Roosevelt en 1933. Keynes soutenait que l'investissement public pouvait augmenter la demande globale et que chaque dollar dépensé en investissement public pourrait avoir un effet multiplicateur sur l'économie, générant plus d'un dollar de revenus et d'emplois. Il a également insisté sur l'impact psychologique de l'investissement public, affirmant qu'il pouvait servir de catalyseur pour restaurer la confiance des investisseurs privés qui étaient réticents à investir pendant la Grande Dépression. L'objectif immédiat des investissements publics, en période de récession ou de sous-emploi, n'est pas nécessairement d'augmenter la capacité de production à long terme de l'économie. Au contraire, l'accent est mis sur la stimulation de la demande effective à court terme. En lançant des projets d'investissement public, l'État crée des emplois, ce qui augmente les revenus des ménages. Ces derniers, en dépensant leurs revenus accrus, stimulent la demande pour des biens et services, ce qui à son tour incite les entreprises à embaucher davantage, créant ainsi un cercle vertueux de croissance économique. Dans ce contexte, même des projets qui n'ont pas une grande utilité économique à long terme peuvent être justifiés s'ils permettent d'engendrer des accroissements de revenus immédiats. L'idée est que l'urgence de la situation économique, marquée par le chômage élevé et la faible utilisation des capacités productives, rend nécessaire une action immédiate pour stimuler la demande. De ce point de vue, la construction de pyramides, les catastrophes naturelles, la guerre ou simplement creuser des trous permettaient d'accroître la richesse. Pour financer ces investissements, Keynes était un fervent défenseur de l'utilisation du déficit public, surtout en période de récession. Selon lui, l'augmentation des dépenses publiques, même financées par l'emprunt, pouvait stimuler l'économie et, par le biais du multiplicateur, générer suffisamment de revenus pour rembourser la dette à long terme. Il reconnaissait que les investissements publics pouvaient théoriquement évincer les investissements privés en entraînant une augmentation des taux d'intérêt. Cependant, il pensait qu'en période de sous-emploi des ressources, les investissements publics peuvent en fait stimuler l'investissement privé en augmentant la demande globale. Il ajoutait que l'augmentation de l'offre de monnaie en parallèle permettrait de neutraliser d'éventuelles tensions sur les taux d'intérêt induites par l'augmentation des emprunts publics. Il considérait aussi la taxation progressive comme un moyen efficace de financer les investissements publics, tout en rectifiant les inégalités de revenus et en dynamisant l'économie. Enfin, dans des situations où les autres méthodes, telles que l'emprunt public ou la taxation, seraient soit inefficaces, soit politiquement difficiles à mettre en œuvre, il restait l'émission monétaire comme moyen de financement. Mais il est important de noter qu'il considérait la monétisation du déficit public comme potentiellement risquée et recommandait son utilisation avec prudence. Il était particulièrement conscient des risques inflationnistes et de la nécessité de retirer ces mesures une fois que l'économie avait récupéré. Selon Keynes, l'État devait donc jouer un rôle actif dans la promotion des investissements et ne pas se laisser entraver par les prétendus mécanismes autorégulateurs prônés par les économistes classiques, tels que le système de l'étalon or, qu'il qualifiait de relique barbare. Cela nous conduit naturellement à ses recommandations en matière de politique extérieure. Les politiques externes recommandées par Keynes étaient conçues pour créer un environnement international qui permettait aux États de poursuivre des politiques internes axées sur le plein emploi sans être contraints par des facteurs externes tels que les taux de change fixes ou les mouvements de capitaux. Keynes rejetait l'idée que les pays devaient recourir à la déflation ou à la contraction du crédit pour s'aligner sur les exigences externes car cela compromettait l'objectif de plein emploi. Il insistait sur le fait que chaque pays devait avoir la liberté de mener des politiques économiques qui visent principalement le plein emploi. Cela contrastait avec le système de l'étalon or, qui imposait des contraintes externes et limitait la capacité des gouvernements à mener des politiques fiscales, budgétaires et monétaires indépendantes. Keynes a alors proposé un système monétaire international en ce sens. Son plan, présenté à Bretton Woods, visait à créer un environnement international stable, facilitant ainsi la mise en œuvre de politiques internes. Il devait notamment permettre à chaque pays de mener la politique monétaire qu'il souhaitait en vue de contrôler son propre taux d'intérêt et d'atteindre ainsi le plein emploi. Le plan Keynes a été supplanté par le plan White, du nom de Harry Dexter White, le représentant américain à la conférence. Le plan White était moins ambitieux et plus en phase avec le statut des États-Unis en tant que principale puissance économique et détenteur de la plus grande réserve d'or. Il a conduit à la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et a fait du dollar américain la principale monnaie de réserve liée à l'or. Le plan White était plus réaliste compte tenu des rapports de force politique du moment, notamment la position dominante des États-Unis dans l'économie mondiale d'après-guerre. Cependant, il n'a pas complètement résolu certains des problèmes que le plan Keynes cherchait à adresser, notamment en ce qui concerne la flexibilité des taux de change et la capacité des pays à mener des politiques économiques indépendantes. En somme, la vision économique de Keynes est une révolution conceptuelle qui a redéfini le rôle de l'État dans la gestion économique. Ses politiques internes, centrées sur la stimulation de la demande effective par la consommation, l'investissement et la persuasion, visaient à résoudre des problèmes économiques fondamentaux tels que le chômage et la stagnation. Parallèlement, ses politiques externes, notamment son plan audacieux pour un nouveau système monétaire international, étaient conçues pour créer un environnement international stable permettant aux États de poursuivre des politiques de plein emploi. Bien que certaines de ses idées n'aient pas été pleinement adoptées, l'héritage de Keynes demeure une pierre angulaire de la pensée économique moderne.